Bonjour à chacun, c'est une joie d'être de retour parmi vous. J'emmène avec moi les salutations de toute la communauté chrétienne de Stockel. Voilà, on est heureux d'être en lien par le biais de ces visites et c'est vraiment une joie. Alors ce matin, je vous propose une méditation à partir de Jacques. Je me rends compte que la fois passée, quand je suis venue, c'était déjà de Jacques et que vous aviez eu une grosse série, donc j'espère que vous n'en avez pas marre. Mais voilà, c'est vrai que moi j'apprécie spécialement cet épître, c'est un texte très challengeant, mais en même temps interpellant et concret, avec beaucoup d'images qui disent des vérités spirituelles, qui nous invitent à agir, à grandir, à nous remettre en question. Donc voilà, j'espère que ce matin on pourra encore être nourri par un extrait. Alors je voudrais démarrer par une question à vous poser chacun personnellement. Si vous pouviez demander une chose à Dieu et que vous étiez certain qu'il vous l'accorde, qu'est-ce que ce serait? Si vous pouviez demander une chose. Je vous laisse 2-3 secondes pour faire parvenir à vos esprits une réponse. Vous avez tous quelque chose en tête? Alors j'ai pensé à beaucoup de réponses possibles qui se situent sans doute à différents niveaux de nos vies. J'ai pensé, voilà, on pourrait imaginer l'accomplissement, la sérénité, la paix, le bonheur, peut-être l'amour des enfants, la bonne santé des enfants, une famille, une longue vie heureuse. De la notoriété, qui sait, hein, de la santé, être délivré d'une angoisse. Et voilà, peut-être que comme on est à l'église, vous avez pensé parvenir à faire la volonté de Dieu, mieux connaître le Seigneur, voir son royaume, peut-être que ça vous est passé par la tête. Et il y a une réponse à cette question que Jacques propose, et qui est le sujet de notre méditation de ce matin. Et il y a eu d'ailleurs une petite allusion dans le chant qu'on vient d'entendre. Mais en préparant, je me disais que ce n'est pas la réponse qui, moi, personnellement, me vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, pour Jacques, c'est une dimension essentielle pour pouvoir traverser les épreuves. C'est aussi quelque chose qu'on peut se vanter d'avoir ou croire sincèrement qu'on en a, mais en réalité, en manquer. Alors, sans plus attendre, je vous donne la réponse en lisant cet extrait de Jacques, et ce sera le sujet de la méditation de ce matin. « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais qu'il demande avec foi, sans douter. » Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Alors peut-être que la deuxième partie du texte vous travaille un petit peu, vous interpelle. On va y revenir. Mais la composante donc que Jacques nous invite à demander, c'est donc la sagesse. Si je pouvais demander une seule chose au Seigneur, est-ce que ce serait la sagesse? Alors, de quelle sagesse parlons-nous? Parce qu'en fait, il y a deux sagesses. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Il y a un texte qui vient à l'esprit des lecteurs de Jacques, immédiatement. Ce sont des judéo-chrétiens. Et c'est un texte bien connu qui, en fait, reprend la question, il est affiché ici, que je vous ai posée d'entrée. Je vous propose qu'on relise ce passage parce qu'il va nous donner des indications précieuses. « À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, c'est Dieu qui pose cette question, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Maintenant, éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Salomon est devant une difficulté, une charge très lourde lui revient, et il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Ça peut nous arriver à nous aussi dans notre vie. Et sa demande, en fait, alors qu'il est quand même roi d'un peuple immense, elle émane d'un constat très humble. Il reconnaît en fait qu'il est inexpérimenté et il ne pense pas être capable par lui-même de faire ce pour quoi il a été désigné. Et il dit donc, j'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. Cette sagesse qui rend le cœur apte à écouter, j'aime beaucoup cette traduction, pour distinguer le bien du mal. Une sagesse qui est d'abord écoute et qui procure la capacité de juger, de discerner, de distinguer le bien du mal. Donc c'est déjà une première chose intéressante, c'est que cette sagesse dont parle Jacques, ce n'est pas une sagesse qui consisterait à connaître plein de choses et à les exposer aux autres. Mais c'est une sagesse qui est capable d'écoute et de discernement, de discerner ce qui est bon ou mauvais dans une situation. Cette sagesse, c'est aussi un don spirituel. Je reconnais ne pas l'avoir, je reconnais avoir besoin d'aide, et c'est sur cette confession d'humilité que le don est accordé. Donc je vous invite à retenir ces deux éléments. La sagesse reçue d'en haut est une capacité d'écoute afin de discerner le bien du mal et elle se demande à partir d'un terrain d'humilité. Alors j'ai pensé à un exemple et je vous avoue que c'est un exemple qui est un petit peu difficile, mais il est tellement parlant que je ne résiste pas à vous le soumettre parce que savoir ce qui est bon ou mauvais, c'est pas toujours quelque chose de facile. Voilà, en tant que chrétien, en tant que croyant, particulièrement dans les temps d'épreuve, où on peut être très désorienté, c'est difficile de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, pour les autres, pour le monde. On a besoin du Saint-Esprit et de cette sagesse qui jaillit de notre foi. Alors j'en viens à mon exemple, c'est un exemple historique. Dans les années 30 en Autriche, tout le monde devait prêter allégeance à Hitler. Et un paysan dans les montagnes, voilà son portrait, profondément chrétien, il reçoit au plus profond de sa conscience que ce qui est en train de se vivre dans la société autrichienne est mal. Et qu'il ne lui est pas possible de prêter ce serment. Il va voir le prêtre de son village pour lui confier ce dilemme. Et le prêtre lui dit qu'il doit se soumettre aux autorités. Tout le monde autour de lui lui dit que ce serait un acte contre son propre pays, contre son sang de ne pas prêter ce serment. Une trahison. On lui dit même que ce serait un péché. Il va se retrouver complètement seul. Il va cependant refuser de prêter serment. Et ça va lui coûter la vie. Il va être emprisonné et exécuté. Mais dans les lettres qu'il échange avec son épouse, et on possède cette correspondance, il affirme être libre et en paix. Que pour lui, il n'était pas envisageable de faire quelque chose qu'il sait être mal, qu'il a reçu comme étant mal. Pardon. Tout son entourage, toute sa société est comme frappée d'aveuglement. Il ne voit plus où est le bien et où est le mal. Et lui a reçu quelque chose dans la foi et il a été attentif à cette voix. Il a été dans l'écoute. Alors c'est un cas extrême dans les conséquences, hein, il ne faut pas que ça nous décourage. Mais il est impressionnant de voir qu'il a su, par sa foi et sa conscience, par une sagesse d'en haut, réaliser que ce que tout le monde pensait être bien était mal. Une capacité de discernement qui parfois nous appelle à aller à contre-courant, même dans les petites choses de notre vie, dans notre milieu professionnel, dans notre entourage, parfois dans nos familles. Et il y a un film, si ça vous intéresse, qui est consacré à ce personnage historique qui avait sombré dans l'oubli. C'est « Une vie cachée » de Terrence Malick. Je vous encourage vraiment à le voir. Et dans le film, ce qui me bouleverse, c'est qu'à un moment, quand il est emprisonné, il va dire à ses bourreaux, aux collaborateurs, donc, qu'ils ne les jugent pas. Et on sent vraiment une profonde humilité. Il ne pense pas être au-dessus du lot par cette décision. Il est profondément humble. Alors pour revenir à nous, dans l'épreuve, dans les périodes difficiles, on peut perdre notre capacité de savoir ce qui est bon, ce qui est juste. Et c'est là que cette prière pour recevoir cette sagesse du Seigneur prend tout son sens. Jacques va préciser encore sa pensée. Il dit que cette sagesse d'en haut, spirituelle et humble, se distingue de la sagesse humaine, celle qu'on peut penser détenir. Et c'est une autre portion de texte de Jacques qui précise cela. Et je voudrais vous la lire. Au début du chapitre 3, il dit « Ne soyez pas nombreux à vous ériger en docteurs ». On voit ça encore de nos jours, dans des églises chrétiennes, des personnes qui se présentent comme docteurs de la foi, qui se placent en défenseurs d'une doctrine. Eh bien, dans l'église primitive, c'était déjà pareil. Il y avait aussi des docteurs autoproclamés qui disaient « posséder la vérité ». Et Jacques dit, il ramène à la vraie sagesse, « Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent ? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, littéralement d'un zèle amer, et d'esprit de rivalité, mais cessez de vous vanter d'être sage en faussant la vérité par vos mensonges. » Une telle sagesse ne descend pas des cieux. Elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. On retrouve ces paroles du texte qui concernait Salomon. Alors un commentateur disait que ce passage, qui est très beau, surtout la dernière partie, peut paraître un peu décousu. Mais avec ce qu'on vient de dire juste avant, on perçoit le fil rouge. Certains docteurs qui se disent sages peuvent mettre un zèle à défendre des discours, des certitudes, des savoirs à tout prix. Et cela crée fatalement une rivalité entre les différentes idées, les différentes doctrines. Et du coup, les communautés auxquelles s'adresse Jacques, au lieu d'être des lieux où l'on construit ensemble, dans la discussion, avec humilité, dans un esprit de paix, devenaient un peu des lieux de concours de coq, à qui a raison, à qui est le meilleur docteur. Et cela crée des zizanies et des divisions. Et Jacques les interpelle. Cessez alors de vous vanter d'être sage. Cessez de vous vanter de savoir mieux que les autres, parce que ce type de sagesse ne procède pas d'en haut. Elle est terrestre, voire pire, comme on l'a lu dans le texte. La sagesse d'en haut est pure. C'est-à-dire pure de tout mal. Elle n'est pas un savoir qui permet de se hisser orgueilleusement au-dessus de l'autre, ou de rabaisser, ou d'alimenter de la jalousie. Elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Et ça, c'est intéressant, on la reconnaît à ses fruits. On la reconnaît quand elle produit la paix. ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Voilà la vraie sagesse, la sagesse d'en haut. Alors c'est une vraie interpellation. On peut penser à nos églises, on peut aussi penser à nos familles. Quand est-ce que nos certitudes, nos bagarres de doctrine, nos bagarres d'idées prennent le nom de sagesse et font des dégâts? Jacques nous rappelle les fruits de la sagesse d'en haut. Ceux qui en sont dotés ont peut-être moins de connaissances, moins de doctrines développées, mais ils incarnent ce qu'ils reçoivent et ils créent la paix autour d'eux. Ils sont humbles et ils savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, c'est une sagesse qui a un impact existentiel dans la vie. Ce n'est pas un discours tout fait. Prions que nos églises puissent se dépouiller, que nous puissions personnellement nous dépouiller des sagesses humaines et demander la sagesse d'en haut. Alors comment la demander? Maintenant que ce contexte est posé sur le type de sagesse, revenons à notre texte de départ. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Alors je voudrais développer trois petits points avant de conclure. La première chose, c'est partir du manque. Et Yves a prié ça tout à l'heure. La sagesse dont Jacques parle positivement est cette sagesse dont on sait qu'elle ne vient pas de nous. Je voudrais vous lire un texte des Proverbes. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent. Recherche-les comme un trésor caché. Alors, tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. Je trouvais ça tellement beau de se dire que cette sagesse se recherche comme un trésor caché. Quelque chose qu'on ne possède pas encore. Elle s'accueille donc sur le terrain du manque. Si on veut recevoir, on tend les mains ouvertes, on les sait vides, et le Seigneur peut y déposer quelque chose. Si elles sont remplies de nos certitudes fermées, c'est difficile d'y déposer un don. C'est pas facile comme enseignement. Pourquoi ? Parce que dans les temps d'épreuve, on a justement beaucoup besoin de certitude. Mais on est invité, même dans l'épreuve, à rester des chercheurs, à continuer à scruter les Écritures, comme le chant encore en parlait, les mouvements de son Saint-Esprit à l'intérieur de nous, à acter que nous manquons et à nous tourner vers la source de notre espérance. Deuxième petit point. Il y a une promesse dans le verset. Dieu va donner à celui qui demande. Et alors, c'est une promesse qui semble, dans un premier temps, inconditionnelle. Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Ce n'est pas une question de mérite. Il donne avec générosité. Cette promesse nous rappelle que Dieu veut nous équiper. Il nous donne cette sagesse qui peut nous permettre de nous orienter. Il ne nous laisse pas dans le chaos des pistes possibles. Et quand on est dans l'épreuve, c'est ça, on se dit par où est-ce que je dois me tourner, vers où est-ce que je dois aller. C'est comme s'il voulait nous confier cette boussole qui va être une ressource. Vous connaissez ce proverbe, c'est pour ça que j'ai mis cette image, plutôt que de donner un poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Eh bien, ce texte de Jacques, il nous montre que c'est un peu ça que Dieu veut faire avec nous. Au lieu à chaque fois de nous donner un poisson, il veut aussi nous apprendre à pêcher. Alors c'est vrai que dans certains cas, il va accorder un miracle, il va accorder une délivrance, ça arrive aussi. Mais la plupart du temps, il ne nous donne pas la solution directement, mais plutôt la capacité de bien nous orienter afin de pouvoir garder le cap, afin de persévérer. Dieu semble vouloir nous armer, nous équiper, nous donner le moyen de nous diriger, d'apprendre à reconnaître la direction à prendre et qui est différente à chaque moment de vie et pour chaque individu. Parfois, on veut chercher dans la Bible des recettes toutes faites pour toute situation, mais non. Parfois, le Seigneur dit « attends ». C'est une parole de la Bible, « attends ». Parfois, il dit « avance ». Avance en eau profonde. Si on lui demande cette sagesse, il va nous la donner. Le dernier point, c'est cette fameuse phrase « sans douter ». Et je pense que c'est la difficulté du texte. Pourquoi ? Parce que Jacques vient de dire que Dieu donne à tous généreusement. Et puis il dit « à part à celui qui doute ». Celui-là ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit, il dit. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut dire par celui qui doute ? Parce qu'en fait, quand on lit ce verset, on pense spontanément à cet autre verset qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. Et quand j'ai lu ce repassage de Jacques, j'ai tout de suite pensé à ce verset. Pourtant, ici, la notion de doute, je pense, ne signifie pas la même chose. Pourquoi ? Parce que dans le texte de Marc, Jésus dit « quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu ». Donc ça veut dire que celui qui prie ne croit pas vraiment qu'il va recevoir. Or ici, Jacques dit que celui qui doute pense qu'il va recevoir du Seigneur. Et il dit « mais qu'il ne s'imagine pas en fait qu'il va recevoir ». Il pense qu'il va recevoir, mais il ne va pas recevoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, le doute représente plutôt l'hésitation, un cœur partagé. Alors, comment est-ce que, moi, je le comprends ? C'est que quand on est dans l'épreuve, quand on traverse vraiment une situation dure, on peut avoir tendance à faire du shopping. Quand on est éprouvé particulièrement, qu'on est désespéré de trouver une solution, on peut avoir tendance à se tourner vers tout ce qui peut nous apporter un peu de soulagement. On prend le premier truc qui passe. C'est là qu'on est en danger, dans le sens que la tentation nous fait de l'œil et qu'on est vulnérable. On peut avoir tendance à se tourner vers tout ce qui va nous apporter un peu de soulagement et on serait capable de dire oui à tout du moment qu'on ressente moins le mal, la souffrance, et qu'on ait une ébauche de pansement, de consolation, de solution. On peut se dire, je vais essayer ça, ça et ça, et tant que j'y suis, je demanderai un peu de sagesse par-dessus, ou une délivrance. Et je crois que c'est ça que Jacques veut dire ici. Si tu essayes un peu tout et tu demandes un peu de sagesse en plus, mais t'imagines pas que tu vas recevoir quoi que ce soit. Parce que quand on se laisse aller au désespoir, à la panique, c'est vrai qu'on peut être chaotique, aller dans tous les sens. Et on est un peu comme une vague de la mer que le vent soulève et qui pousse d'un côté et de l'autre. Jacques nous rappelle que le Seigneur nous rencontre non pas par-dessus notre shopping, mais à un niveau beaucoup plus existentiel, en amont. Avant de s'orienter, avant de foncer vers n'importe quoi, il nous invite à prendre ce temps du retrait, en face à face avec Dieu, dans le dialogue, dans la vérité, dans le manque, dans le désespoir, les mains ouvertes. On demande cette sagesse en premier lieu, plus que toute autre chose. On suspend les différentes possibilités qui s'offrent à nous. On renonce en fait à se disperser, à s'éparpiller. On demande la sagesse. On demande la guidance en s'adressant à Dieu. En fait, ce que Jacques dit, c'est que Dieu, ce n'est pas une option parmi d'autres. c'est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation. Et on fait cette démarche non depuis notre éparpillement, mais depuis notre cœur le plus authentique, même s'il est cabossé, vulnérable. On se tourne vers Dieu pour lui demander de pourvoir. On écoute et ensuite, après, on se replace devant les différentes options et on décide en étant concentré et non partagé. Pour conclure, si je pouvais demander une chose à Dieu, qu'est-ce que ce serait ? J'espère que vous avez envie de demander de la sagesse maintenant. Pour traverser la vie, on en a besoin. Demandons au Seigneur de nous accorder sa sagesse plus que toute autre chose. Nous voulons confesser que souvent nous sommes saturés par nos propres certitudes. Nous voulons nous placer ce matin devant lui les mains ouvertes. Pour se diriger dans ce monde aux mille enjeux, aux idéologies fortes, aux influences permanentes via la technologie, ça devient difficile. On a besoin de lui pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À chaque pas de la vie, nous avons besoin de sa sagesse. Et elle se cherche dans les Écritures, comme on l'a chanté, au plus profond de nos cœurs aussi, où habite l'Esprit Saint, et dans notre conscience qu'on endort si souvent. Alors que nos vies ne ressemblent pas à des vagues qui vont en tous sens, mais qu'elles soient ancrées en Christ, qui est la sagesse de Dieu. Amen.